Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Julia, ici du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même votre travail. Bref, on fait en sorte que vous vous sentiez bien dans votre tête et dans votre corps.
Et Mélanie, ici on donne beaucoup de conseils pour mettre davantage de soleil dans nos vies, mais on donne également la parole à nos auditeurs. Donc n'hésitez pas, on attend vos questions, celles que vous nous laissez au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors aujourd'hui Julia, comme tous les jours, on va commencer ce magazine en se posant ensemble une question au centre de notre vie quotidienne. Ce matin, elle s'adresse à tous ceux qui ont des enfants dans leur entourage, je vous la donne. Et si on fichait un peu la vie à nos enfants avec les écrans, ou pas d'ailleurs, on fera le point sur les vrais dégâts pour les plus jeunes et sur ce qui est acceptable avec le docteur Anne-Lise Ducanda. Elle est médecin en PMI et autrice du livre « Les tout petits face aux écrans » aux éditions du Rocher.
Ensuite, à 11h45, il y aura notre séquence tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Et ce matin, Maud Ravier, l'une de nos expertes beauté, nous parlera des dernières astuces et soins pour avoir de beaux sourcils. Et puis avec Philippine Darblay, notre spécialiste art de vivre, on se mettra en appétit. Elle nous l'a promis, ce midi, on va parler d'un fruit, la figue, dans tous ses états.
Enfin Julia, dès midi, dans la partie santé de cette émission, on va faire un focus sur l'AVC. Mais vraiment, on va se pencher du côté de la prévention de cet accident. Comment le reconnaître et surtout comment l'éviter, car oui, c'est possible. Le professeur et neurologue Pierre Amarinco nous dira tout.
Europe 1.
Eh bien voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission de fin de matinée pour être mieux dans son corps, dans sa tête, que l'on soit d'ailleurs petit ou grand, car c'est mercredi et c'est vrai que souvent on abordera des thématiques liées aux enfants ce jour-là ou en tout cas à la parentalité. Et donc notre question ce matin est la suivante, et si on fichait un peu la paix à nos enfants avec les écrans?
Ouais, c'est une bonne question, mais moi j'y répondrai non, surtout continuez de les empêcher à se gaver de tablettes et d'ordinateurs et mettez-les derrière la radio, ça c'est bien, on verra avec notre invité si j'ai raison. Enfin bref, pour bien introduire notre thème du jour, il est évidemment fidèle au poste en ce début d'émission. J'accueille tout de suite notre Tintin reporter Clément Lanoux. Bonjour,
bonjour
Clément.
Merci
bonjour
pour
Clément.
La comparaison, vous avez frappé à la bonne porte. J'ai pas d'enfant et j'ai pas de télé.
Voilà. Mais la et quand vous étiez petit, avec le Minitel de
quand
toute façon.
Quand j'étais petit, évidemment, non, j'avais comme tout le monde cette fameuse phrase de recule-toi de la télé, ne regarde pas trop la télé, t'auras des problèmes de vue, t'auras des lunettes.
Oui.
Pas manqué, j'ai des lunettes aujourd'hui. Donc faut-il réduire ce temps d'écran? Faut-il embêter les enfants? Le mieux, c'est de leur demander à eux directement, est-ce qu'ils abusent de leur temps d'écran? Combien de temps vous pouvez passer en une journée devant un écran?
Mon cher ami, 24 sur 24 parce que c'est trop bien. Yeah baby.
Moi, j'ai eu des lunettes à cause de ça.
Moi, environ, je peux passer 10 heures.
10 heures par jour?
Bah oui.
Et tu vas jamais à l'école?
Bah non.
Moi, j'ai pas envie d'être ma boule, tu vois. Moi, je sais pas.
Qu'est-ce qui se passe si on reste trop sur Internet?
On perd l'intelligence.
Mais non, tu deviens plus intelligent, mon poteau.
Non, c'est pas vrai. Il paraît qu'il y a une lumière bleue là qui t'abîme les yeux. Donc tu connais pas tes multiplications et tout.
Personnellement, moi, oui, je trouve que je suis trop sur les écrans. Et en fait, j'aimerais arrêter, mais j'y arrive pas.
Moi, je peux pas arrêter les écrans. Quand sinon, je suis tout seul chez moi et je m'ennuie.
Est-ce que vous trouvez que les enfants, ils sont trop accros aux écrans?
Oh, bien sûr que oui. On est des geeks. Des geeks.
Aïe. Vous êtes excités, ceux-là. Hein. Je sais pas si c'est les écrans.
Très excités, mais... pourquoi? C'est parce que justement, ils avaient regardé, ils sortaient justement d'une séance de cinéma et ils étaient du coup très, très, très énervés. Alors, les parents, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont pour, contre les écrans? Est-ce qu'il faut gérer le temps? J'ai demandé à une maman.
Moi, je dirais que tout dépend de ce que regardent les enfants. Quand je les vois fouiller et chercher sur Internet des vidéos scientifiques, historiques, etc., en rapport avec ce qu'ils apprennent à l'école, et ils trouvent des perles rares, et sur certains sujets, je les trouve plus doués que moi. Je trouve que finalement, utiliser correctement, ça peut apporter beaucoup de choses.
Elle n'a pas tort, cette maman, mais les enfants qu'on a attendus avant, je ne suis pas sûre qu'ils avaient fouillé des vidéos scientifiques.
C'est ce que j'allais dire. J'ai mis cet extrait exprès pour énerver les parents qui se disent « Mais moi, ils jouent à la console, Call of Duty, tout ça, toute la nuit. » Et là, ils vont chercher les trucs historiques. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tous les parents qui nous écoutent. Il existe, et je l'ai découvert en rencontrant quelqu'un hier. Je l'ai vu sur cette appli directement. Il était tard, je dis « Mais c'est quoi cette appli? On peut contrôler à distance, avec, là c'est une appli, mais il en existe plein, le temps d'écran de ses enfants. » Alors vous, pour gérer votre ado, vous avez découvert une appli fabuleuse.
Oui, tout à fait. Alors Family Link, ça fait que je vois tout ce qu'elle fait, je vois toutes les applis, je lui verrouille son téléphone, J'enlève les applications de son téléphone, je contrôle tout.
Mais vous ne voyez pas les messages ?
Ah non, je vois pas.
Vous voyez le temps qu'elle passe en fait sur telle ou telle appli ?
Oui, voilà. Donc là, elle a fait 38 minutes de Snapchat sur 1h15 que je lui autorise par jour.
Et vous avez la même appli pour votre mari ?
Le mari, j'ai pas. Mais je devrais peut-être.
Peut-être. Ça vous fait réagir, Julia.
Mais j'allais vous demander, est-ce que ça existe pour les conjoints ?
C'est voilà. Exactement la même. Mais c'est vrai qu'il y a pas de. On ne viole pas l'intimité, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas les messages qui s'échangent, mais on voit à distance,
c'est
on peut
mal,
se dire tiens,
hein,
là, je bloque le téléphone, il est dans la chambre, passé, je dis n'importe quoi, 22h40.
La tablette explose.
On stop, voilà. Et qui dit tablette, qui dit justement écran, dit téléphone, évidemment. Donc j'ai ouvert carrément un autre débat, puisque j'avais les enfants sous la main. À quel âge le portable ?
11 ans, je pense.
18 ans !
Il faut l'avoir entre 11 et 12 ans, puisque c'est l'âge de la 6e. En 6e, tu t'en sers vraiment qu'en primaire, tu t'en sers moins.
Donc pour toi, dès que tu arrives en 6e, tu dois avoir un téléphone ?
Bah oui, comme ça t'appelles et tous tes copains.
Surtout les copines, hein, faut pas oublier.
Est-ce que vous avez des téléphones, vous ?
J'en ai un, mais sans carte SIM.
Ça sert à quoi ?
Bah, à jouer, à faire des photos trop classe, là.
Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents pour avoir un téléphone portable ?
Faut dire que si au collège, en 6e, t'as pas de téléphone, t'as la honte. Donc c'est obligé d'avoir un téléphone en 6e.
Ça, c'est un bon argument ?
Bah oui.
Et alors toi ?
Moi, j'en ai déjà un.
Et comment t'as fait pour en avoir un ?
Je lui ai dit, maman, je peux l'avoir, je t'en supplie, comme ça j'aurai plus de bonnes notes et je serai plus sage. Oh,
voilà. Et est-ce que depuis que tu l'as, t'as des meilleures notes et t'es plus sage ?
Un petit peu, oui.
Mais quelle bande de faillots, voilà.
Il y a des malins là-dedans. Mais en fait, ouais, le portable, j'ai compris, c'est comme la Rolex à 50 ans. Si tu l'as pas en 6e,
t'as loupé ta vie. Exactement. Ouais. Donc merci les enfants. Bon courage pour les parents qui ont entendu et qui sont en pleine négociation de. Qui sont en CM1, CM2. Mais maman, papa, il me faut un portable. Donc bon courage. Désolé d'avoir lancé un nouveau problème.
Merci beaucoup Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain avec grand plaisir, comme tous les jours, pour nous donner cette impulsion tous les matins, démarrer cette émission du bon pied et dans la bonne humeur. Mais à présent, on accueille notre invité du jour. C'est vous, docteur Anne-Lise Ducanda, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin en PMI et autrice du livre que je montre là à la caméra, Les tout petits face aux écrans, aux éditions du Rocher. Alors, première question, est-ce que vous pensez qu'on en fait trop sur les dangers des écrans sur nos enfants ? Alors, remarquez, excusez-moi, mais si vous ne le pensiez pas, vous n'auriez pas écrit ce livre.
Oui, mais c'est bien d'introduire comme ça. Non, on n'en fait pas du tout assez. On sait que le temps passé devant les écrans de nos enfants explose. Alors effectivement, en fonction des âges, des temps, des contenus, je suis entièrement d'accord, les dangers dépendent de tout ça. Mais non, on n'en fait pas assez. Bon, là, le reportage était très sympathique et ça a permis d'introduire beaucoup de sujets. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter.
Il y a des choses assez informatives, hein, dedans, on rigole, mais c'est sérieux.
Mais c'est très intéressant, ouais. Et je serais très heureuse de répondre aux enfants. Mais là, voilà, on voit des enfants qui vont bien et c'est très drôle. Nous, on a des parents qui s'alarment. C'est la première cause de conflit à la maison. Ils s'arrachent les cheveux. Pour les petits, on a des troubles graves que je cite dans mon livre. Pour les grands aussi, hein, on tire la sonnette d'alarme. Et avec la crise sanitaire, ils ont surconsommé les écrans, mais nous aussi. Et de toute façon, c'était dur de faire autrement. Et les troubles ont augmenté. D'ailleurs, les services de pédopsychiatrie ont sonné l'alerte fin 2020.
Voilà, j'allais dire, vous travaillez en PMI, donc en centre de protection maternelle et infantile, c'est ça ?
Alors, je travaillais en PMI jusqu'en 2018 et je vais retravailler en PMI dans une autre région bientôt. Mais je fais des consultations spécialisées pour enfants surexposés aux écrans dans le sud de la France.
D'accord. Et donc, ces enfants-là, vous les voyez. Depuis quand vous êtes alarmé justement par les dégâts qu'on détaillera après, mais des dégâts liés à la surexposition aux écrans ? Ça a démarré quand ?
Alors, je me suis vraiment alarmée vers 2012. Puisque le médecin de PMI est aussi médecin scolaire des petites et des moyennes sections de maternelle. Et donc on fait des visites de dépistage sur le développement, la socialisation, tout ce que vous voulez. Et puis quand il y a un enfant en difficulté, l'institutrice m'interpelle, me demande de le voir. Les crèches aussi, les haltes-garderies, parce qu'elles n'ont plus de médecin. Et là j'ai eu un afflux, petit à petit, mais lentement mais sûrement, d'enfants en difficulté inquiétante, un peu nouvelle. Et très vite, j'ai demandé, parce qu'on sait que l'environnement de l'enfant, le cerveau de l'enfant, il est programmé avec la génétique programme l'enfant pour marcher, pour parler, pour apprendre, pour se concentrer. Mais après, tout dépend de l'environnement. Et donc, il faut, c'est vraiment une question essentielle à tous les professionnels de santé. Il faut questionner l'environnement de l'enfant quand il y a un souci. Et les parents me disaient, ah, mais ce qu'il adore, c'est mon téléphone ou la tablette. Et je me suis rendu compte comme ça qu'énormément de troubles, 95% des enfants que je voyais en difficulté étaient surexposés aux écrans.
Bon, c'est une bonne introduction, docteur Ducanda. Vous restez avec nous dans ce studio. On va poursuivre dans quelques minutes cet éclairage sur les écrans et nos enfants, les plus jeunes surtout, et les conséquences sur leur développement et leur santé quand ils sont surexposés. Sans dramatiser non plus, sans sermonner personne, on fera le point. Alors à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, ce magazine tous les matins sur Europe 1 dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien dans tous les aspects qu'il comprend. Et donc ce matin, notre question, elle va interpeller tous ceux qui ont des enfants, de jeunes enfants surtout, dans leur entourage. Si on fichait un peu la vie à nos enfants avec les écrans. Alors j'entends déjà quelques petites dire oui, fichez-nous la paix. Mais non, c'est pas si simple. Justement, pour en parler, je rappelle, vous êtes avec nous, docteur Ducanda. Vous êtes médecin en PMI et l'auteur du livre « Les tout-petits face aux écrans » aux éditions du Rocher. Alors, on va reprendre, puisqu'on a dit, vous, depuis 2012, grosso modo, vous alertez sur ce sujet. Vous avez vu des enfants en difficulté, notamment, et fait surtout, dans 90% des cas, vous dites, à cause de la surexposition aux écrans. Il se passe quoi dans le cerveau, très concrètement, de ces enfants de 2 ans, 3 ans? On parle des tout-petits, on a dit, hein, qui sont surexposés.
Alors, c'est très important. Le cerveau va se développer en fonction des expériences que va faire l'enfant, mais il peut se développer que si c'est des expériences dans le monde réel en 3 dimensions. Donc, le virtuel et le monde en 2 dimensions ne pourra jamais développer le cerveau. Donc, le cerveau devant les écrans, fortement capté, parce que le cerveau humain est attiré parce qu'il lui donne du plaisir sans effort, exactement ce que donnent les écrans. Donc, le cerveau va être privé de sa nourriture essentielle. Prive le tout petit de ses besoins vitaux, c'est d'interagir avec des humains et en premier lieu ses parents avec toute l'affection et découvrir le monde avec tous les sens combinés. Ce qu'il voit, faut qu'il le touche, faut qu'il bouge son corps. C'est vraiment indispensable. Donc les connexions ne se font pas. Et pire, ce qu'on pense, c'est que le bombardement du tout petit par les shoots visuels et sonores, des dessins animés, des jeux interactifs, créerait des mauvaises connexions cérébrales dans le cerveau, aberrantes, qui remplaceraient les bonnes.
Donc les bonnes ne se font pas et les mauvaises se font la place. Quoi.
Exactement.
Oh là là, mais c'est la panique là. Mais alors en fait, quand dans le magnéto de Clément Lanoux, il y a un des gamins qui dit en fait avec les écrans tu perds ton intelligence, c'est pas tout à fait faux. En tout cas, ça la met en sommeil.
Alors, tout à fait, on le voit et il y a plus de 5100 études qui montrent le lien entre écran et effet délétère. On a des retards intellectuels. Une étude de l'INSERM de juin montre que les enfants qui ont souvent la télé à table ont une baisse du QI verbal de 3 points.
Wow.
Donc on a des retards de langage, ça c'est vraiment massif, des retards moteurs et des troubles de la relation et de la communication qu'on peut confondre avec les syndromes autistiques puisque parents et enfants captés par les écrans n'interagissent pas assez.
Sûr. Clément Lanoux.
On vit dans un monde où il y a de plus en plus d'écrans, donc ça va être très dur de faire marche arrière, mais du coup, on ne peut pas interdire. Est-ce qu'il y a une durée idéale ou en bas âge en tout cas, par jour?
Alors, on ne peut pas interdire. Si je vous dis que les écrans sont toxiques, oui. Est-ce que vous interdiriez l'alcool et la drogue à votre enfant de 18 mois?
Il n'en a pas.
Voilà, je serais un très mauvais père. Voilà. J'autoriserais tout.
Il faut dire aux parents que c'est toxique. Donc, c'est aucun écran de 0 à 2 ans. Vraiment, je n'explique pas tout le phénomène, mais les 0 à 2 ans, c'est très important.
Évidemment, mais après?
Après, les études montrent que c'est toxique, enfin, délétère, parce que la toxicité c'est quand même plusieurs heures par jour, à partir de 15 minutes par jour. Mais comme c'est très addictif, si vous mettez un petit choupi 15 minutes par jour, il peut vous faire une crise après les 15 minutes et ça rend la vie à la maison impossible. Donc moi je préconise 30 minutes mercredi, samedi, dimanche, y compris les vacances, de 2 à 6 ans. Mais le mieux, c'est le moins, puisque aucune activité sur écran d'un moins de 6 ans va être favorable pour son développement et ses apprentissages.
C'est clair. Hein. Mais vous en parlez comme si c'était des toxicos, nos enfants. Vraiment, il faut...
Et nous, on est leur dealer. Quoi.
Ouais, c'est ça. Faut faire, mais comment on fait? Alors, si on s'est planté et qu'on a accordé trop d'écran à nos enfants, on fait un sevrage? Des salles de shoot? On fait comment?
Alors oui, c'est comme des toxicos. Et les parents que je vois en consultation ou qui m'appellent ou qui m'envoient des mails me disent il est accro, il est addict. Et quand on essaye arrêter les écrans, parce que j'explique aux parents que ça peut expliquer le trouble de l'enfant, là, vraiment 90% font des crises en se tapant la tête contre les murs ou par terre. Ce qui rend le sevrage extrêmement compliqué, mais il faut absolument le faire. Ça peut être choupi quand vous l'avez 10 heures par jour.
C'est vrai, j'imagine. Alors,
évidemment, vaut mieux un choupi qu'un GTA.
Docteur Ducanda, la surexposition aux écrans, c'est aussi, vous l'avez déjà dit, hein, des troubles du langage, mais ça veut dire quoi? C'est des enfants de 3 ans qui ne savent pas du tout parler. Enfin, concrètement, ça ressemble à quoi un enfant qui est surexposé et quand ça se traduit par le problème de langage?
Alors, c'est très important que tous vos auditeurs comprennent que un enfant ne peut apprendre à parler que si c'est un humain qui lui parle face à face. Donc aucun dessin animé, même sa mère.
Dora, elle parle en anglais quand même. Hein,
donc l'enfant va répéter, mais ne va pas mettre de sens dans les mots. Et il y a une étude américaine qui a montré que si on mettait des enfants de 2 ans à regarder une petite scène à travers une fenêtre d'une dame qui cache un doudou sous un canapé, et on met le même nombre d'enfants, 21 enfants de 2 ans, à regarder la même scène sur un écran de même taille, et qu'après on fait rentrer tous ces enfants dans la pièce pour rechercher les doudous, tous les enfants qui l'ont vu à travers la fenêtre vont le retrouver, seulement la moitié à travers un écran. Wow. Quand c'est à travers un écran, le cerveau ne capte pas, les mots ne veulent rien dire. Donc on n'apprendra jamais à un petit à parler, français, anglais, à travers un écran. Il faut que ce soit un humain, face à face, le cerveau humain est câblé comme ça.
Incroyable. Alors, autre conséquence du trop-plein d'écran, vous écrivez dans votre livre qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des mains papillons. Alors, ça veut dire quoi, ça, les mains papillons ?
C'est joli, en tout cas. Oui.
Alors, pour développer la motricité fine, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avec les mains, eh ben, faut que l'enfant ait des expériences de motricité fine, de gestes. Vous imaginez dans la vie de tous les jours réelle, ce qu'on peut faire, porter, glisser, appuyer, pousser. Alors qu'avec l'écran, il y a soit zéro geste, puisqu'on est devant, par exemple, un dessin animé, soit le seul geste qu'on a, c'est de caresser l'écran. Mmh. Donc pour le cerveau, même si dedans, c'est 10 petits exercices différents, pour le cerveau, c'est juste glisser le doigt.
Ça vous est jamais arrivé, vous lisez un magazine papier et en fait, vous voulez tourner la page et vous faites comme sur un écran, non ?
Non. Pour passer la slide. Ah,
vous avez un problème.
Ah, bah, moi, je pense que j'ai des synapses, des trucs chelous dans mon cerveau.
Alors ça,
connecter.
Je l'ai jamais entendu chez un adulte, mais alors on voit des petits de 2 ans sur des surfaces, une table ou un livre, effectivement faire ça glisser. Donc en fait, l'enfant ne fait pas assez de gestes. Tout ce qu'il fait, c'est effleurer l'écran de façon très légère. Et donc, on le voit un petit peu comme un papillon avec ses mains. Et il y a des institutrices qui m'ont dit, je vois des enfants avec des mains papillons. Bon. On a des enfants qui, à 3 ans, ne peuvent pas attraper un stylo parce qu'ils n'ont pas la pince pouce index puisqu'elle n'est pas exercée avec l'écran.
Wow. Alors, le cas de Julia Vignali, on en parlera un peu plus tard ou en dehors en consultation. Mais
je ferai une consultation spéciale.
Tout ce que vous avez dit sur les connexions qui ne se font pas sur un cerveau de 0 à 2 ans, on va dire exposé aux écrans, chez un adulte qui, lui, pour le coup, je sais pas, serait sur Netflix toute la journée, et puis tous les... voilà, ça fait quoi comme dégâts sur le cerveau, pour le coup ? Les connexions, elles sont finies, elles sont faites.
Alors, c'est évidemment complètement différent, puisque le cerveau humain est mature à 25 ans, donc il n'y aura pas tous les dégâts. Il y aura plein de compétences qui auront été mises en place chez l'adulte. Après, chez l'adulte, on sait, c'est troubles de l'attention, ça peut être d'autres...
Troubles du sommeil.
Ça peut être d'autres, mais c'est pas pareil.
Et puis attendez, on a parlé des mains, mais on n'a pas parlé des yeux. J'imagine que ça a une grosse incidence, non, sur la vision de nos enfants.
C'est pour ça que Clément Lanoux a des lunettes.
Oui, c'est pour ça, trop d'écran.
Alors, il y a 2 incidences au niveau des yeux, et ça a été clairement montré par des études, et notamment l'ANSES, qui en 2019 a regroupé une méta-analyse de 600 études. Il y a un, ça favorise la myopie à cause du manque de... l'enfant n'est pas assez à l'extérieur, ça fait une forme de cristallin qui n'est pas adaptée et donc ça donne de la myopie. Et dans certains pays asiatiques, on a 90% d'enfants myopes. Or, au départ, c'est une maladie génétique. Mmh, donc on voit que l'environnement peut jouer. Mmh. Et la lumière bleue, donc l'ANSES l'a montré, est toxique pour les cellules de la rétine. Donc on va avoir une épidémie de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui normalement arrive chez le vieillard de 90 ans. Mais on a des mutuelles qui commencent à signer des contrats avec des ophtalmologues pour des adultes de 40 ans.
C'est dingue, hein. Mélanie. Moi, ce qui me manque maintenant, parce qu'on a bientôt fini avec vous, en tout cas, on passera aux questions de nos auditeurs ensuite, mais comment on fait, quoi ? Maintenant, on sait que c'est pas bien les écrans, mais concrètement, quand on a un gamin qui pique une crise et qui devient fou comme un toxico, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ?
Alors, comme Mélanie, déjà, il faut prévenir. C'est-à-dire donner des bonnes habitudes tout de suite, dès le début. On n'est pas obligé de donner des règles pour jouer au Monopoly à la poupée.
Elle dit comme Mélanie, parce que hors antenne, je précisais que mon fils avait des règles le samedi, le dimanche, une heure. Bon, c'est plutôt une heure et demie. En général, ça dérape, mais il y a des règles depuis longtemps.
Ça se passe bien, Mélanie, parce que vous avez donné les règles au début, dès le départ. Si vous laissez, un peu comme d'autres drogues, 8 heures par jour, c'est très compliqué pour les parents. Mais ce n'est pas désespéré. Il faut le faire. On n'est pas là pour faire ce que nos enfants veulent. On est là pour faire ce qui est bon pour eux. Donc, il faut leur expliquer.
C'est bien parlé. Hein.
Il y a vraiment des enfants qui sont... Aujourd'hui, on parle d'addiction en tout genre. Avant, il y avait que l'addiction à l'alcool, au tabac. Maintenant, on sait très bien qu'il y a des addictions aux jeux, l'addiction aux écrans. Est-ce qu'il y a vraiment des enfants de 2 ans ou 3 ans chez qui on peut parler d'addiction, c'est-à-dire de pathologie, hein, pas seulement ils adorent les écrans?
Alors, l'OMS a déclaré le 25 mai 2019 et a ajouté à la liste des maladies mentales le trouble du jeu vidéo. Alors, c'est peut-être pour les plus grands, mais vraiment, il y a toutes les caractéristiques de l'addiction. Les enfants ne veulent plus rien faire d'autre.
J'allais dire, comment je sais que mon gosse est addict ? C'est ça, il veut plus rien faire d'autre.
Vous allez lui proposer tout ce qu'il aimait d'habitude, se promener, jouer au jeu, faire un câlin avec maman, il va préférer les écrans.
C'est un bon signal, effectivement.
Merci beaucoup, docteur Ducanda. On reste encore un peu ensemble, hein. On parle ce matin de nos enfants face aux écrans. On vient de dresser précisément les risques pour eux. Mais alors, en pratique, on en a commencé à en parler. Comment faire pour les déscotcher ? Faut-il faire comme une sorte de sevrage ou tout retirer brutalement ? Ou alors y aller petit à petit, en douceur ? On va en parler dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez, Julia Vignali.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Ah, magnifique choix, effectivement, pour notre sujet du jour. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, dans lequel on vous guide tous les jours vers une vie encore plus positive pour vous et surtout aujourd'hui pour vos jeunes enfants, car c'est notre question ce matin, je la rappelle. Et si on fichait un peu la paix à nos enfants avec les écrans, ou pas, je
précise. Oui, Julien, notre invitée, elle a décidé au contraire de ne pas lâcher l'affaire, car les risques d'une surexposition aux écrans sont trop importants. Qui dit ça? C'est donc le docteur Annelise Ducanda, médecin en centre PMI et autrice du livre « Les tout-petits face aux écrans » aux éditions du Rocher. Bon, on a dit, docteur, qu'on allait essayer de culpabiliser personne aujourd'hui, mais pour être honnête, hein, nos enfants, ils sont quand même un peu nos prolongements. Je pense qu'il n'y a pas d'enfants, on va dire, si les parents sont ermites, vivent sans écran, sans rien, ils ont rarement des enfants qui sont accros aux écrans. Donc, c'est un peu notre faute quand même, soyons honnêtes.
Alors, surtout, c'est jamais la faute des parents. C'est quand même une injonction dans notre société de tout numériser, encore plus avec la crise. Donc effectivement, c'est quand même compliqué de limiter les écrans quand nous-mêmes on est beaucoup dessus. Alors la bonne nouvelle, c'est que de 2 à 6 ans, ils peuvent avoir 30 minutes de petits dessins animés ou de jeux interactifs si c'est adapté à l'âge, mais pas le matin, pas au repas, pas le soir avant de se coucher.
Mais en rentrant de la crèche ou de l'école.
En rentrant de la crèche ou de l'école. Bon, vraiment,
voilà. Vous avez du mal à dire, hein. Vous avez du mal à dire en
rentrant vraiment
de la crèche.
C'est vraiment... Si on ne peut pas éviter, 30 minutes, il n'y aura aucun dégât sur votre enfant et ça pourra très bien se passer.
Et on met un chrono, parce qu'ils ont tendance à... Même nous, on oublie, parce qu'on est en train de cuisiner. Enfin, je le dis par expérience.
Mais c'est une bonne idée, ce que vous dites,
Mélanie.
Moi,
je mets toujours un chrono dès que j'allume un écran.
J'aimerais bien que vous disiez ce que vous en pensez, docteur, mais est-ce que ce n'est pas bien, justement, dans la règle de temporalité, de montrer à l'enfant un chronomètre pour qu'il voit bien qu'on respecte notre décision.
Moi, les chiffres, elles ne comprennent pas, mais ça sonne, en fait. Et quand ça sonne, c'est fini.
Alors, vraiment, les écrans, faut des règles, contrairement à toutes les autres activités que font les enfants, il faut des règles. Donc, tu as 30 minutes, mercredi, samedi, dimanche, de Tchoupi à telle heure. On peut lui montrer effectivement une horloge. Il y en a qui mettent un minuteur, c'est fini.
Oui, parce qu'une demi-heure à 3 ans, ça veut rien dire.
Donc... Tout à fait. Mais non, vous lui dites, je ne sais pas combien de temps dure un Tchoupi ou un petit ours au brun.
Il faut laisser la fin.
Oui, alors là, il va faire une crise. Donc, tu regardes 3 petits ours au brun, 2 Tchoupi, ça fait une demi-heure et c'est parfait. Il est content. Et le lundi, le mardi, il ne va pas demander, il ne va pas attendre et il va explorer énormément de choses. Il va être très heureux. Les familles qui arrivent à gérer les écrans sont des familles apaisées, heureuses, qui partagent énormément de choses ensemble. Et ça, c'est très positif.
Bon, j'avoue, il y a quand même des fois où je lâche l'affaire et que j'ai autre chose à faire et je laisse l'écran un peu plus longtemps. Il y a quand même des enfants qui ont accès à des écrans, peut-être un peu trop, certes, mais qui vont bien aussi, franchement. Soyons honnêtes, on en a entendu plein avec Clément Lanoux tout à l'heure. Ils ne sont pas obligés d'aller mal, quand même.
Alors, vous avez raison. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'enfants qui vont bien. On s'intéresse plutôt à ceux qui vont mal parce qu'ils ont plus besoin de nous. C'est très important. Et je rebondis sur votre petite invitée qui disait qu'il cherchait des choses scientifiques.
Oui.
Alors, évidemment, s'il fait 2 heures, il recherche un documentaire scientifique, ma foi, c'est excellent.
Le seul et unique enfant de France, d'ailleurs, qui fait ça, je crois.
Attention à cet argument que reprennent certaines personnes. Les écrans ne sont pas dangereux, ça dépend de l'usage. Les écrans sont dangereux parce qu'ils attirent l'enfant. C'est comme une drogue. Ils donnent du plaisir sans effort. Et il y a 95% des enfants qui font du distractif, aucun intérêt éducatif à l'écran. Voilà, donc je tenais à dire ça.
Alors, pour se débarrasser des écrans, vous dites que la première chose, c'est d'appliquer une règle qui s'applique pour toute la maison. Mais moi, par exemple, ma voisine Mélanie Gomez, elle a un enfant qui a 4 ans et l'autre qui a 12 ans. Mais ça va être le souk à la maison si elle fait ça.
Parce que la petite, j'essaie de mettre des règles, mais le grand, il va regarder la télé, elle est ouverte. Enfin,
Il faut lui mettre Tchoupi. Si vous mettez Tchoupi à celui qui a 12 ans, normalement, il ne regardera pas plus de 15 minutes.
Il regarde pas la même chose. La télé reste allumée longtemps quand même. Alors, vous voyez ce que je veux dire.
Je voulais aussi finir sur ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Si l'enfant a, je sais pas moi, sa dose d'écran, entre guillemets, qui va bien, on va quand même pas s'inquiéter. Il faut une dose d'écran importante et des troubles. Hein.
Ouais,
alors quand vous avez des âges différents, c'est beaucoup plus dur à gérer, évidemment. Ouais. Donc pendant qu'elle fait la sieste, tu peux regarder. Pendant qu'elle est chez son copain, etc. Mais quand même, il faut lui expliquer, c'est pas pour t'embêter, c'est toxique pour ta petite sœur. Faut préserver son cerveau. Donc évidemment, on ne dit pas d'écran dans la chambre, mais je ne dis pas la même chose quand j'ai un ado. Je préfère qu'il joue dans sa chambre si le petit est dans le salon. Voilà. Donc on essaye de bricoler, etc. Mais il faut protéger
le petit.
C'est vrai
que la console de jeu, moi, est dans le salon. Et du coup, même si elle ne joue pas, elle regarde parfois ce que fait son grand frère.
Bah écoutez, si votre grand joue à GTA, ça m'embête quand même.
Non. Voilà. Il joue que des jeux de foot et de basket. Ça va.
Voilà. Donc vous voyez, ça dépend aussi du contenu.
Sport.
On le disait tout à l'heure, évidemment. Les petits qui ont des grands frères et grands sœurs sont un peu plus exposés. Tant que ça reste un peu raisonnable et qu'il va bien, on ne s'inquiète pas. Mais surtout quand il y a un trouble, se poser la question des écrans. enfant. Et s'il en avait trop? Et si c'était ça? Et à ce moment-là, pour les 6 ans, 18 ans, il faut restreindre à 2 heures, mercredi, samedi, dimanche.
Mais attendez, s'ils en sont à 10 heures, imaginons, nous les parents, on n'a pas fait le boulot, et puis c'est la catastrophe, et le gamin, il est complètement accro. Comment on fait le sevrage? On diminue petit à petit, comme, je sais pas, une cigarette? Ou alors
on jette la console de jeu par la fenêtre?
On dit, t'y touches plus jamais de ta vie, on fait comment?
Alors moi, je suis plutôt pour un sevrage, quand c'est un petit qui a des troubles de 0 à 6 ans, je dis zéro écran, puisqu'il faut que les connexions cérébrales aberrantes se disparaissent au profit des nouvelles qui vont se recréer à nouveau. Mais pour un grand, c'est différent.
Mais c'est réversible, encore une fois. Hein, si notre
alors,
enfant
chez les
a des
petits,
problèmes
c'est réversible, c'est parce que le cerveau de l'enfant est très plastique. Plus on s'y prend petit, plus c'est réversible. C'est la très bonne nouvelle.
Entre 0 et 3 ans, il y a de l'espoir, donc.
Mais oui, et après, il y a de l'espoir. Par exemple, un trouble de concentration chez un 14 ans, si vous arrêtez, si vous limitez les écrans à 6 heures par semaine, il n'y a plus de trouble de concentration au bout de 3 semaines.
Et si, on est déjà loin, comment se faire accompagner? Est-ce que c'est faut aller voir des médecins? Est-ce qu'il faut aller voir des associations? Ça se passe comment?
Alors, j'adore qu'on me pose cette question, parce que malheureusement, il n'y a quand même vraiment aucun médecin qui est formé. C'est un phénomène relativement nouveau, ils n'ont pas été formés, ils ne pensent pas toujours aux diagnostics, ils font des confusions de diagnostics, mais c'est normal. Un enfant qui bouge beaucoup et qui ne se concentre pas, on va le diagnostiquer TDAH, on va le mettre sous traitement.
TDAH, or, donc trouble de l'attention
avec hyperactivité, alors qu'il faut penser aux écrans. Et donc, je voulais citer justement l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance avec qui je travaille et qui me permet de former des professionnels, dans la ville de Bordeaux sur cette question. Il faut que le gouvernement lance un grand plan national de prévention et de lutte contre la surexposition aux écrans pour qu'on forme tous les professionnels de l'enfance et nous sommes très nombreux.
Alors super, on a arrêté les écrans, on n'est pas des toxicos, on est des bons parents, tout le monde va bien à la maison, mais du coup on fait quoi?
On fait quoi d'autre?
J'ai entendu parler d'un phénomène qui s'appelle le livre, c'est des espèces de papiers.
Franchement, quand on enlève les écrans, vous l'avez dit, le cerveau du petit il est attiré par quelque chose qui va lui procurer du plaisir sans beaucoup d'efforts. Quand on fait la transition, on enlève tous les écrans, qu'est-ce qui peut le subjuguer autant
la
qu'un
fenêtre.
Écran dans un premier
Parce
temps
Parce que moi, si ouais, je lui offre un jouet en bois, je suis pas sûre que ça lui fasse plaisir.
Vous l'envoyez dans la figure, oui.
Alors, dans un premier temps, il recherchera l'écran et la plupart du temps, ils font des crises. Donc, vous attendez la phase de sevrage, quelques jours, quelques semaines. Okay. Vous l'emmenez dehors, il va chez mamie qui n'a pas d'écran. Vous vous faites aider, surtout, par la famille ou les professionnels. Et ensuite, à partir du moment où il sera sevré...
On invite un copain aussi, ça peut être une idée.
Alors ça, c'est magnifique.
Eh oui,
c'est magnifique.
Et il vient avec sa console, c'est cool.
Voilà. Donc, il y a des petits critères à respecter. Et à partir du moment où il sera sevré, il va découvrir le monde, découvrir les jeux et reprendre intérêt à tout le reste qui n'est pas des écrans. Et ça, c'est merveilleux. Mmh. Et bien sûr, les parents doivent se rendre disponibles.
Ah oui,
ce
moi, j'ai
pas
dû
facile.
Me mettre au père à cause de ça, je vous dis pas.
C'est compliqué, c'est bien pratique les écrans, bien sûr. Quand on connaît pas la toxicité, on a tendance à en abuser. C'est pour ça qu'il faut prévenir les parents.
Et les dommages dans le cerveau, il faut compter combien de temps pour que ça se reconnecte bien une fois qu'on a sevré l'enfant?
Elle est dans la réparation,
dépend.
Julien.
Ouais. Hein, alors, exactement. Alors, tout dépend de l'âge auquel il a commencé, de la dose, de l'enfant. Donc, j'ai des enfants vraiment. 10 jours, on voit des progrès sur le langage, sur la relation à l'autre. Ils s'apaisent alors qu'ils étaient très excités. Et j'ai des troubles graves de la relation et de la communication. Il me faut des fois 9 mois pour que l'enfant récupère. Je ne peux pas vous donner, c'est vraiment
cas par cas.
Cas par cas.
Oui. C'est génial. Et là, pareil, donc admettons, on vous a écouté, on a fait ce sevrage parce qu'on avait un enfant entre 0 et 3 ans, enfin plutôt 2 et 3 ans, on va dire, qui avait ce problème-là. On vous a écouté, on a tout bien fait, mais cet enfant, il va grandir d'en année en année. Un jour, peut-être que la question des écrans revient. À partir de quand on l'a sevré, qu'il va mieux, on peut remettre, avec les bonnes règles que vous nous avez données tout à l'heure, les écrans d'entre ses mains?
Alors, c'est une très bonne question et très douloureuse et difficile, puisque j'ai su une petite fille qui, à 2 ans, avait été diagnostiquée autiste, avec des troubles massifs, et elle était surexposée aux écrans. Et là, elle a complètement été sevrée, elle est la première de sa classe en CP, sans AVS, et elle va très bien. Mais pendant le confinement où le papa est parti au Maroc, il a remis 5 heures d'écran par jour, et il y a des signes, notamment le flapping qui est revenu.
Donc je disais, c'est quoi le flapping?
Le flapping, c'est les stéréotypies avec les enfants qui font des gestes inutiles, répétitifs, de surexcitation.
Et qui peuvent penser que c'est de l'autisme.
Voilà, et qu'on voit chez les enfants surexposés, il y a plusieurs hypothèses, mais on les voit chez les enfants surexposés. Quand on arrête les écrans chez ces enfants-là, ces signes disparaissent. Et cette petite fille de 6 ans, c'est revenu. Donc les parents ont tout arrêté de nouveau à 6 ans. Donc moi, qui disais aux parents, au moins jusqu'à 6 ans, pour un enfant avec des troubles, aucun écran, et je disais à 6 ans, vous pouvez remettre un petit peu, je ne sais plus quoi dire. Ouais. Je crois qu'il faut être hyper vigilant, c'est au cas par cas. On recommence un peu les écrans de façon raisonnable. 5 heures par jour, c'était peut-être un peu beaucoup pour cette petite fille. À 6 ans, et si on voit que ça se passe bien, ça se passe bien. Mais je crois qu'il faut garder un œil, comme vous faites, Mélanie, un contrôle. C'est la seule activité sur laquelle il faut que les parents gardent un contrôle vraiment jusque tant que l'enfant soit et quitter le nid de la maison, j'ai envie de dire.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des applis dont a parlé Clément là? C'est bien de de surveiller son enfant.
Les plus grands quand même.
Est-ce qu'on dit à son enfant, est-ce qu'on prévient son enfant qu'on le surveille par exemple?
C'est pas que pour les plus grands, c'est à tous les âges. Vous devez garder le contrôle sur tous les écrans. Et aujourd'hui, parce que justement, il y a quelques années, on a dit que c'était addictif et dangereux, tous les fabricants de ces outils ont mis des contrôles parentaux. Donc tous les écrans ont des contrôles parentaux. Il faut en user, en abuser. Il n'y a que 15% des parents qui l'utilisent. Mais il faut savoir que les grands détournent.
Mais
très aisément, les contrôles parentaux, ils changent la date du créneau du réseau, évidemment, du fuseau horaire. Enfin, c'est extrêmement difficile, cette histoire d'écran pour les parents.
Donc il faut vraiment en abuser du contrôle parental avec nos jeunes enfants avant qu'ils sachent mieux faire que nous pour le contrôle parental.
Exactement. Hein.
Voilà. Sauf que le problème, c'est que toutes ces applis sont sur d'autres écrans encore et ça redonne du temps d'écran encore.
Oui, mais enfin, il faut connecter l'écran de nos parlets du smartphone de votre enfant au vôtre pour le gérer. Parce que le smartphone, c'est l'écran le plus dangereux. On n'en a pas parlé, mais on pourrait refaire une émission sur le smartphone.
Et oui, et puis heureusement, vous avez écrit un livre à ce sujet. Merci beaucoup, docteur Ducanda, de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci
pour tous vos conseils qui seront bien utiles, j'en suis certaine, pour les parents ou même les grands-parents, d'ailleurs, qui nous écoutent.
Tout à fait. Les grands-parents achètent souvent à Noël ou à l'anniversaire des écrans.
J'ai cru qu'elle a dit à la naissance, la première fois.
Malheureusement, 9 mois déjà. Donc, docteur, lisez bien le livre.
Je peux vous dire qu'on est prêt à commencer un sevrage en douceur dès ce soir. Alors, à présent, Mélanie, il est temps de changer de sujet et de passer à la séquence tendance de ce magazine.
Oui, Julia, dans un instant, elles vont pénétrer dans ce studio. Nos deux chroniqueuses tendances, les bras chargés de bonnes astuces et de conseils à tester absolument. Maud Ravier d'abord nous aidera à faire de nos sourcils les plus beaux qui soient. Et puis Philippine Darblay arrive elle aussi avec de belles figues dans sa besace. C'est le fruit tendance en ce moment. On va déguster tout ça ensemble. Alors à tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre magazine positif, une émission dans laquelle avec Mélanie Gomez, on vous donne tous nos meilleurs conseils et nos bons plans, ce qu'il faut absolument tester. Et donc maintenant Mélanie, on passe à notre tour de table tendance de ce magazine.
C'est parti, effectivement, Julia. Alors, je me tourne vers vous pour commencer, Philippine Darblay. Vous êtes notre experte art de vivre dans Bienfait pour vous. Et donc, ce matin, on va découvrir ou redécouvrir grâce à vous un fruit extraordinaire, je crois.
Oui, je vous laisse le découvrir dans quelques minutes. Mais, et à noter, il n'est sur vos étals que quelques semaines.
Bah ouais, c'est la figue. Elle voulait faire du suspense, elle vous avait tout.
Merci, Julia.
Mais non, j'en ai déjà une dans la bouche, j'aime tellement ça. Merci, Philippine, on revient avec vous dans quelques minutes. On a déjà faim, ça c'est sûr. Mais en attendant, je me tourne vers vous, Maud Ravier. Vous êtes l'une de nos expertes beauté ici. Alors, je ne sais pas si vous aimez la figue, mais en tout cas, vous aimez les sourcils. Et les beaux sourcils, surtout, racontez-nous.
Alors, j'adore la figue. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mise à côté de Philippine.
Vous aurez le droit
de goûter, petits
Maud,
vous aurez le droit. Alors, je reviens à mes sourcils, ma spécialité. Donc, pour avoir des beaux sourcils, évidemment, il faut avoir des évidences au niveau des points de départ. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un sourcil. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour avoir une belle tête de sourcil, il faut prendre le coin du nez, puis le coin interne de l'œil, et là vous avez une ligne imaginaire qui se crée, vous avez le début de votre sourcil. Pareil
comme
pour
ça,
la queue de sourcil.
Oui,
enfin là on va être
caméra.
Sur la queue. Maintenant maintenant on va être sur la queue, c'est-à-dire coin interne ou coin externe des yeux.
Donc Julia prend un stylo, et avec le stylo on le met sur la pointe du nez.
Non, mais
c'est
pour qu'on explique aux gens qui nous écoutent comment on fait.
Coin interne de l'œil et vous avez le début du sourcil. Ensuite, aile du nez, coin externe de l'œil, vous avez la sortie et donc la queue du sourcil.
Là où il doit s'arrêter.
Et la petite astuce très importante pour avoir une belle arche et pour avoir surtout un beau point de hauteur, c'est que vous faites coin interne toujours du nez, l'iris, et là vous avez la sortie au niveau de l'arc qui est vraiment magnifique et qui donne un sourcil glamour. C'est le secret.
Est-ce qu'il y a des choses à savoir de spécial, suivant les différentes formes et morphologies du visage?
Alors tout à fait, il y a des règles à suivre, c'est-à-dire que si vous avez un nez large par exemple, l'idéal c'est vraiment de resserrer les têtes de sourcils, ça va vous donner une impression de nez beaucoup plus fin.
De resserrer les têtes de sourcils,
et
ça veut dire quoi?
Plus vous avancez les têtes de sourcils, plus vous les rapprochez.
Les poils,
non,
quoi.
Parce que souvent, en fait, on va venir tricher avec du maquillage, ou alors on ne va pas trop épiler si on a un épi sur le devant. On le laisse vraiment s'avancer un petit peu.
D'accord.
Et si on a, par exemple, le nez très fin, eh ben on va faire l'inverse. On va écarter les têtes de sourcils pour vraiment donner un regard plus ouvert, plus grand.
Ah, génial.
Autre chose aussi qui est très importante, parce qu'avec les tracés que je vous ai donnés, c'est que si vous avez un front très large,
qu'est-ce que je dois faire ?
Un nez très large, mais avec un tout petit nez, vous allez vous retrouver avec des mesures ridicules, c'est-à-dire que vos sourcils vont être accrochés sur le front, mais minuscules, on peut dire ça comme ça, et du coup, ça ne va pas mettre votre regard en valeur.
Bon, ça, c'est pour les formes adaptées à notre visage, mais comment on fait tout simplement pour épiler ? Comment on s'y prend ?
Alors, pour épiler, moi, je vous demande surtout d'utiliser une pince crabe. Pourquoi ? Parce que ça va éviter de vous pincer.
C'est quoi une pince ?
Alors, les pinces crabes, c'est celle qui se resserre un petit peu. Voilà, ça évite.
Elle n'est pas plate, quoi.
Exactement. Ça évite d'attraper la peau en même temps et de se blesser.
D'accord.
Et à l'inverse de l'épilation des jambes, on demande d'arracher dans le sens inverse du poil. Là, on va arracher dans le bon sens, dans le sens de la pousse.
Vous n'épilez pas vos jambes avec une pince à épiler, quand même ?
Non, mais je n'ai pas de poils. Excusez-moi, je n'ai pas de poils.
Est-ce qu'on peut s'épiler, Maud, pardon, sur le dessus du sourcil ?
Alors, ça va dépendre de la forme qu'on veut obtenir. Si on veut obtenir une forme glamour, montante, arrondie, on va éviter d'épiler le dessus du sourcil. Par contre, à l'inverse, si on recherche plutôt une forme dite orientale, une forme plate un peu plus large, là, on va effectivement épiler le dessus du sourcil au niveau de la tête pour l'aplatir et pour lui donner un effet un petit peu plus structuré.
Enfin, moi, je regarde les sourcils depuis tout à l'heure de Philippine et j'adore. C'est très à la mode. Hein, ça redevient la mode, les sourcils.
J'adore que ce soit pour la mode, mais alors moi, c'est vraiment pas laisser aller, mais pas loin.
Non, c'est la mode du sourcil un peu foufou.
Alors écoutez, Maud, moi, il m'arrive de me faire épiler le sourcil et parfois, on me les coupe comme les cheveux, comme chez le coiffeur. C'est normal,
oui,
ça ?
Tout à fait.
Alors, encore une fois,
je croyais qu'on faisait ça au monsieur, moi, mais bon.
Mais non, c'est qu'à moi ou
ça arrive ? Non, ça va, encore une fois, ça va dépendre du style que vous voulez vous donner. C'est-à-dire comme Philippine, qui a un sourcil très naturel, un petit peu fou, un peu sauvage. Mmh. Voilà, on est dans le sauvage. Et bien, on va surtout lui laisser cette nature-là. Par contre, pour vous, Julia, qui avez un sourcil plus structuré, un peu comme moi, un peu plus maquillé, glamour, effectivement, si les poils sortent de la ligne, c'est pas très joli. Donc, on évite la coupe aux brosses, hein, parce qu'on veut pas la coupe en brosse, mais bon.
Ah oui, non, pas la coupe en brosse, mais merci beaucoup, Maud Ravier. Je ne m'épilerai plus jamais les sourcils de la même manière grâce à vous. C'est à votre tour maintenant, Philippine Darblay. Alors, moi, je commence à avoir faim et j'ai vu que vous veniez avec des choses qui ont l'air très bonnes. Donc, il y a des figues au menu, c'est ça ?
Exactement. Je suis venue accompagner. On va même en parler dans quelques instants. Et comme vous l'avez très gentiment dit, et alors que c'était la surprise d'aujourd'hui, je voulais vous parler de figues qui sont aussi ma plus grande passion. Alors,
c'est vrai ?
Vous voyez, c'est ce fruit qui est gorgé de sucre, qui chauffe au soleil, qui s'attrape directement sur l'arbre, qui a des tonnes de couleurs. Hein. Elle peut être violette, verte, blanche, voire jaune. Et puis tous ces grains qui craquent sous la dent, moi j'adore ça. J'attends ça que toute l'année, je scrute les feuilles de figuier, je les vois grandir depuis le printemps. C'est un vrai bonheur.
Quoi, quand même,
petite fixette.
Ouais, alors c'est un fruit symbolique philippine qu'on retrouve souvent en histoire et en littérature d'ailleurs.
Bah, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur des peintures, en histoire, dans la mythologie. Alors par exemple, vous voyez Adam et Ève, eh bien, ce sont avec des feuilles de figuier qu'ils se cachent les
parties génitales.
Voilà. Exactement. Et le figuier lui-même, attention, aurait contribué à la création de Rome en offrant de l'ombre à Romulus et Rémus avant qu'une louve ne vienne les allaiter et donc les sauver.
Mais c'est génial.
Un joli historique. Et enfin, c'est César lui-même qui a introduit le fruit en France. Rien que ça.
Alors, quelles sont les propriétés, les bienfaits de la figue ?
Eh bien, évidemment, si on en parle aujourd'hui, comme c'est le thème majeur de cette émission, il y a évidemment des bienfaits pour vous. C'est un fruit qui est riche en glucides, en potassium, en fer, en protéines, mais aussi en antioxydants. Ça, c'est un sujet qui touche beaucoup
à la peau.
Pour la
peau, c'est bon. Hein,
voilà, pour l'élasticité de la peau. Et c'est également riche en fibres. Hein. On sait tous que ça facilite la digestion. Ceux qui savent, savent.
Ouais.
Voilà. Et l'ensemble de tous ces éléments ont un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi certains cancers et certaines maladies chroniques. Et honnêtement, après tout ça, moi je suis un peu attristée de la place qu'on accorde à la figue dans nos expressions aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'utilise par exemple en disant « il est mi-figue, mi-raisin ».
Ouais, c'est vrai.
Quand même pas très positif.
Pas sympa.
Avoir les figues hautes, ça veut dire être prétentieux. Avoir les figues molles, ça il y a une autre expression. Bon, pour en revenir à notre sujet tendance, ce n'est pas la figue ancestrale qui est la tendance elle-même évidemment, mais bien sa place dans les assiettes des chefs qui adorent les produits de saison. Et cette année d'ailleurs, il y a de très jolies nouveautés.
Bah oui, d'ailleurs, je vois quelques créations là sur la table, en plateau.
Qu'est-ce qu'on a là ?
On a la fin
avec Julia. Ah, vous allez faire passer.
Oui.
Hein.
Non, il y a beaucoup de choses, ça sent très bon. C'est la dernière collection du grand pâtissier Pierre Hermé, qu'on connaît tous.
Ah oui,
alors voilà, il y a
génial.
Trois créations. Il y a une première tarte Garance qui est à la figue, framboise et cannelle, qui a voilà, un ravissant petit tour de figue fraîche avec un coulis au milieu.
Super. On ne le voit pas bien.
On fera des photos pour les réseaux sociaux, bien
juste
sûr.
Juste des photos, Julia.
Sur Twitter, évidemment.
Comme ça,
vous verrez toutes ces créations magnifiques. Qui ont l'air vraiment délicieuses.
Oh, c'est beau, c'est tout orné de sucre. Bon, évidemment, là, on ne parle pas de... Bref, c'est une autre forme de bienfait. Hein. Il y a un gâteau qui s'appelle Alkinos, qui est en référence à la mythologie, à la figue et à la poire. Et il y a des magnifiques macarons que je vais vous faire circuler. pendant que je parle.
Faites circuler.
Voilà, merci. Voilà, je prends. Bon, malheureusement, la production cette année a souffert du gel d'avril, donc il semblerait que la récolte soit moins bonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ces feuilles. Et oui, c'est ça la vraie nouveauté dans les restaurants aujourd'hui. Ce sont les feuilles de figue. On a par exemple vu le chef Atsushi Tanaka, qui est le chef du restaurant haut de gamme AT dans le 5e à Paris, réaliser, accrochez-vous, un homard grillé fumé aux feuilles de figuier.
Wow. Très chic. J'aurais jamais eu l'idée d'utiliser les feuilles, mais...
Ah bah voilà, les chefs sont fous de la feuille de figue. La chef itinérante Céline Pham, qui était à Arles cet été, a dévoilé un lait de riz pris avec un peu de vanille, donc c'est une sorte de flan très léger, agrémenté de figues fraîches et d'un filet d'huile de feuilles de figuier. Mmh. Alors pour revenir, là on arrive dans du très spécifique, mais l'huile de feuilles de figuier, c'est absolument dément. Pour en avoir goûté énormément de fois, c'est une vraie révélation. C'est ultra puissant, il suffit de quelques gouttes, ça parfume un plat, c'est exceptionnel.
C'est génial.
C'est compliqué à faire. Bah ouais, ça doit être compliqué. On peut se la faire soi-même, son huile de figuier, de feuilles de figuier.
Moi, je pensais que ça allait être affreusement compliqué. Eh bien, c'est l'inverse. C'est très simple. Il suffit de réduire des feuilles en petits morceaux. On les mixe bien fort avec de l'huile neutre. On laisse l'ensemble infuser et on filtre. Et voilà. Bon, en conclusion, c'est vrai qu'il y a des tonnes de recettes avec les figues, en salade, sucrée, salée, etc. Mais honnêtement, je vous le dis ici, je la préfère belle comme elle est, à l'état pur, car les choses les plus simples sont souvent les...
plus belle.
Meilleure.
Pardon, je me suis trompée.
Mais en fait, les plus belles aussi.
Les plus belles aussi.
Ça marche aussi.
Faites tourner un peu les macarons. Merci beaucoup, Philippine. Merci à vous également, Maud Ravier. On vous retrouve toutes les deux très bientôt dans Bienfait pour vous avec d'autres tendances dans notre assiette et d'autres conseils beauté et esthétique. En attendant, Mélanie, on va changer de sujet et passer à la partie santé-bien-être de cette émission.
C'est ça, Julia. Dans quelques minutes, ce sera notre dossier santé. Dès midi, on va s'intéresser à l'AVC. Alors, dit comme ça, ça casse un peu l'ambiance, effectivement, mais c'est un sujet important. Et surtout, on a de très bonnes nouvelles ce midi. Écoutez bien, si un Français sur cinq aura un AVC dans sa vie, il pourrait être évité dans 80% des cas. Eh bien nous, on va vous donner le guide pour en faire partie de ces 80%. Vous voyez, on n'arrête pas de le dire, mais c'est bien ça. On prend soin de vous ici. À tout de suite.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le Gard, toujours sous surveillance à la mi-journée. L'homme porté disparu ces dernières heures a été retrouvé sain et sauf. C'est l'information de la matinée. On ira sur place retrouver Benjamin Péter. La réponse de Xavier Bertrand à Emmanuel Macron. Au lendemain de leur rencontre frisquette à Roubaix, le candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand, va faire ses propres propositions en termes de sécurité. Information Europe 1, il va annoncer que les amendes forfaitaires pour occupation de halls d'immeubles devront être payées sur le champ. Ça sera sa proposition s'il est élu président de la République, évidemment. Si ces amendes forfaitaires ne sont pas payées sur le champ, eh bien, il y aura des retraits sur salaire ou sur les allocations. Nos informations dans Europe Midi. Éric Zemmour à 10% des intentions de vote dans un sondage Harris Interactive pour Challenge. On reviendra sur la réaction d'Éric Ciotti qui était ce matin dans la matinale d'Europe 1 interrogé par Sonia Mabrouk. Les prix de l'alimentation, ils ont augmenté et c'est parti pour durer, c'est ce que nous dira Maud Descamps qui a assisté ce matin à la conférence de presse des industriels de l'agroalimentaire. Beaucoup d'informations dans Europe Midi. À tout à l'heure, dans une demi-heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Europe 1.
11h, midi 30.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, c'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Julia, on va surtout prendre soin de votre santé.
Exactement Mélanie, dès midi, comme tous les jours, nous serons accompagnés d'un invité et aujourd'hui c'est le professeur Pierre Amarenko, il est chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat à Paris. Et avec lui on va vaincre l'AVC, c'est le titre Mélanie du livre qu'il publie aujourd'hui même, car oui, si un Français sur cinq aura un AVC un jour, 80% d'entre eux sont évitables. Alors ça vaut vraiment le coup de s'arrêter un peu sur le sujet.
Et puis à midi 20, ce sera notre rendez-vous habituel à la fin de cette émission. La fameuse chronique vite fait, très bien fait. Et aujourd'hui, ce sera vous, Sylvie Chocron, aux commandes. Vous êtes neuropsychologue. Qu'est-ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va se demander comment les odeurs influencent notre cerveau.
Vous sentez encore l'odeur de figue là dans le studio. Merci beaucoup Sylvie. On vous retrouve dans quelques minutes pour cet éclairage qui s'annonce passionnant comme toujours. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Voilà, on démarre tout de suite la dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé, Julia. Et pour cela, on accueille tout de suite notre invité. C'est vous, professeur Pierre Amarenco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service neurologie à l'hôpital Bichat à Paris et donc l'auteur du livre Vaincre l'AVC qui paraît ce jour même aux éditions du Rocher. Alors, on n'est pas en retard, hein, mais on s'est dit que vu les chiffres, il ne fallait pas attendre. Un Français sur cinq aura un AVC dans sa vie. C'est énorme, mais le plus important, et c'est ça qu'on aime beaucoup nous dans cette émission, c'est la prévention, parce que vous dites 80% des cas, on pourrait les éviter, les AVC. C'est pas un peu exagéré quand même comme chiffre, professeur ?
Non, c'est pas exagéré. Si on maîtrisait les chiffres de pression artérielle, de cholestérol, si on ne fumait pas, ni tabac, ni cannabis, si on n'était pas en surpoids, si on faisait de l'exercice physique régulièrement, on pourrait éviter en effet 80% des AVC.
Alors on va les détailler bien sûr après les mesures de prévention dans le détail, mais avant ça rappelez-nous de quoi on parle, c'est quoi une attaque cérébrale ? Parce qu'il y a deux ou trois types d'attaques dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes, il y a les hémorragies cérébrales, c'est-à-dire une artère dans le cerveau éclate, ça c'est 20% des AVC environ, un peu moins, 15%. Il y a les hémorragies méningées par rupture d'anévrisme qu'on voit souvent chez le sujet âgé ou chez le sujet jeune. Mm-hmm. C'est 2% des accidents vasculaires cérébraux. Et puis le plus fréquent, c'est l'infarctus cérébral, c'est-à-dire qu'une artère du cerveau se bouche et le territoire irrigué par cette artère dans le cerveau est abîmé.
Alors aujourd'hui on a dit qu'on voulait l'éviter justement cet AVC, quelle que soit sa forme on va dire, et l'éviter surtout pour éviter qu'il n'y ait de trop lourdes conséquences. Donc, parce qu'au moment où on parle, il y a forcément des gens aujourd'hui qui feront un AVC, c'est obligatoire, hein, je crois, c'est systématique.
Toutes les 4 minutes.
Voilà, donc on n'a pas le choix et nous on veut l'éviter. Et du coup pour l'éviter, éviter les problèmes graves qui en suivent, comment on le reconnaît l'AVC, il ressemble à quoi? Quels sont les signes principaux on va dire?
Bon, les signes principaux c'est une faiblesse d'anémie corps, d'un côté du corps, et c'est surtout la survenue soudaine des symptômes. Donc d'un côté du corps, une paralysie de la main, de la face, une paralysie faciale, c'est-à-dire
la bouche qui tombe d'un
bouche
côté,
de travers, ouais. Voilà, ou une faiblesse dans le membre inférieur, ou bien les trois ensemble. Ça peut être également une perte de la vue d'un œil. Mm-hmm. Ou bien du champ visuel. Ça peut enfin être un trouble du langage, difficulté à trouver les mots.
Mais on est conscient, on n'est pas évanoui encore une fois.
On est là. Conscient, on n'arrive plus à trouver les mots dans sa tête ou à les exprimer, à les sortir. Ça s'appelle l'aphasie, où on dit un mot pour un autre.
Et quand ça arrive, professeur, ça, dès qu'on a ces symptômes dont vous nous parlez, on fait quoi? On se rend aux urgences directes ou est-ce que déjà à la maison, on peut faire quelque chose?
À la maison, non. On doit immédiatement informer le médecin, ça, il n'y a pas de doute.
Le 15, c'est le
15,
signal.
Hein. S'il y a des symptômes qui persistent, on appelle le 15. Si les symptômes régressent en totalité, on peut prendre 300 mg d'aspirine. Mais si les symptômes persistent, on ne prend rien du tout, on appelle le 15 et le 15 vous trouvera une place dans une unité de prise en charge de l'AVC.
Spécialisée, parce que c'est important d'atterrir au bon endroit. On va passer à la prévention, professeur Amarenco, c'est notre spécialité ici dans Bienfait pour vous. Et vous dites que l'AVC peut être carrément évité dans 80% des cas. Alors, moi, comment je fais pour évaluer déjà mon risque personnel? Je crois que déjà, il y a deux ou trois chiffres, vous l'avez dit un petit peu en préambule, qu'il faut connaître lesquels, expliquez-nous.
Il faut connaître ces chiffres de pression tout au long de sa vie. Il faut connaître ces chiffres de pression artérielle.
12-8. Ça va?
Ah, moi j'ai 11-7, ça va 11-7?
Excellent.
Allez, c'est bon. C'est mieux.
Sylvie, vous, ça va aussi? Moi, ça va, je suis plutôt hypotendue.
Bon, d'accord.
Voilà, c'est les centenaires qui sont hypotendus. Bon. Tout va bien. Donc, pression artérielle, cholestérol, glycémie. Ces chiffres-là, il faut les connaître tout au long de sa vie parce qu'ils peuvent évoluer au cours de la vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tension à 12-7 à un moment de sa vie. Et puis, quand on a 60 ans ou 70 ans, la pression artérielle peut augmenter parce que c'est l'hypertension systolique du sujet âgé et qui est un facteur de risque important d'AVC.
Donc, si on a 15, on contrôle, on se fait soigner, on la fait baisser cette tension.
Exactement.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer. Et je suis bien concernée par le problème.
Elle a pris engagement déjà pour le mois de novembre.
Le mois de novembre, le mois sans tabac, je vous engage à faire comme moi. Vous parliez des jeunes, et notamment, pourquoi pas, de ceux qui ont tenté le cannabis. Ça veut dire quoi? Que nos jeunes qui font cette expérience-là risquent l'AVC?
À 25 ans, à 20 ans, à 17 ans
L'AVC est causée par le cannabis, au point que lorsqu'un sujet de moins de 60 ans arrive à l'hôpital, systématiquement, on lui dose le cannabis dans les urines. Parce qu'il y a des gens qui fument beaucoup de cannabis et qui abîment à la fois leur cœur et leurs artères cérébrales.
Donc on ne fume pas de cannabis, on ne fume pas tout court,
oui.
On connaît ces chiffres de pression artérielle. Et puis vous dites alors un truc étonnant dans votre bouquin, si vous voulez réduire votre risque d'AVC individuel, quoi, achetez un vélo d'appartement. Pourquoi pas un vélo tout court?
Ben oui.
Ah, parce que pourquoi le vélo d'appartement?
Vous avez des actions dans les vélos d'appartement?
Non, je conseille mes patients le vélo d'appartement parce que par les temps qui courent, vous voyez, il pleut dehors.
Oui, aujourd'hui.
Le vélo, vous n'en faites pas.
C'est juste pour la régularité.
Si vous faites 20 à 30 minutes de vélo tous les matins avant la douche, vous vous levez un peu plus tôt, à ce moment-là, vous aurez fait votre exercice physique, c'est très important. C'est important pour éviter l'AVC, mais c'est important aussi pour garder son capital musculaire avec l'âge.
Bien sûr.
Les muscles qui diminuent de taille. Et c'est très important pour
garder... Donc vélo d'appartement, ou vélo
marche.
Électrique, ou rameur,
voilà,
enfin, ce qui nous fait plaisir.
Vous
savez ce qu'elle fait, Mélanie?
Ça peut être autre chose.
Mélanie, elle descend 2 arrêts de bus avant chez elle pour marcher, c'est bien.
Tout savoir sur moi aujourd'hui, hein, c'est vrai.
C'est bien, mais marcher, c'est bien, mais l'exercice physique, c'est aussi, il faut transpirer.
Elle transpire. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez vu le temps, Julien, non, je descendrai au moment où il faut avec mon parapluie. Hein.
Alors, vous dites également, professeur, que la dépression et le stress, s'ils ne sont pas la cause principale d'AVC, c'est quand même embêtant, hein. Ça peut créer des soucis.
Un patron embêtant, ça peut causer un AVC?
Alors, le stress, c'est une question qu'on pose tout le temps, c'est un facteur favorisant, sans aucun doute, mais on est tous soumis au stress, plus ou moins important, voilà, et on ne fait pas tous des AVC. Donc, c'est un facteur favorisant, mais ça n'est pas un facteur de risque majeur. La part attribuable du stress et de la dépression, c'est 5%, alors que l'obésité, c'est 25%, l'hypertension artérielle, c'est 40%, le cholestérol, c'est 25%. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes niveaux.
Alors, enfin, pour évaluer son risque éventuel de faire un AVC un jour, vous conseillez dans votre livre à chacun de prendre son pouls. Alors, c'est-à-dire, et du coup, qu'est-ce qui serait une alerte une fois que je l'ai, ce pouls?
Oui, parce qu'on conseille surtout de remplir un questionnaire qui est sur le site vaincrelavc.org. Et ce questionnaire vous demande donc vos chiffres de pression artérielle, cholestérol, diabète, etc. Mais aussi, il vous demande si votre pouls est régulier ou pas. Si votre pouls est irrégulier, il y a possibilité que vous ayez ce qu'on appelle l'arythmie cardiaque, qu'on appelle la fibrillation atriale, qui est une grande cause.
Comment je me rends
cérébrale.
Compte personnellement qu'il n'avait pas...
Vous mettez vos doigts ici sur
la
gouttière radiale, là au-dessus du pouce, et puis vous sentez le pouls, tout simplement.
Il faut vraiment que ce soit régulier. S'il y en a deux,
si
trop proches...
Si c'est irrégulier, à ce moment-là, vous voyez votre médecin pour qu'il vous fasse un électrocardiogramme.
Vous pouvez nous faire le bruit, peut-être. C'est quoi un truc régulier? Ça, c'est régulier. Ça, c'est pas régulier. D'accord.
Voilà. Moi, je sens rien. Je sais pas ce qui m'arrive.
Julien,
c'est autre chose, ça. Il faut mettre ses doigts comme ceci sur la gouttière radiale. Voilà. Et là, vous sentez le pouls, forcément. Hein.
J'espère. On va vérifier ça pendant la pub. Merci, professeur Amarenko. Ne bougez pas, on n'en a pas encore terminé avec vous et nos auditeurs et auditrices non plus, d'ailleurs. Ils ont quelques questions pour vous. On va les prendre. Et pour ceux qui ne les ont pas encore posées, ces questions, n'hésitez pas, soit via Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou sur notre répondeur au 39 21. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio pour cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé. Et plus précisément ce midi, on évite ensemble d'avoir un jour un AVC. Car oui, un Français sur 5 court ce risque dans sa vie. Alors on en parle avec vous, professeur Pierre Amarenko. Je rappelle la sortie de votre livre aujourd'hui même, Vaincre l'AVC, qui est publié aux éditions du Rocher. Alors on l'a dit, on y est, on passe aux questions de nos auditeurs, à commencer par celle-ci qu'on a reçue sur la page Facebook d'Europe 1. C'est Louison, près de Bordeaux, qui demande si le fait d'avoir très souvent mal à la tête peut être un signe d'AVC. Est-ce qu'on a mal au crâne d'ailleurs quand on fait un accident cérébral ou pas?
Alors déjà, il faut rassurer les gens parce que le mal de tête, c'est 20% de la population. Donc il n'y a pas 20% de gens qui vont faire un AVC maintenant. La céphalée peut survenir en cas d'AVC. Le plus souvent, c'est une céphalée qui est le mal de tête est soudain et inhabituellement sévère. C'est ça la caractéristique. Soudain et inhabituellement sévère. voilà, après, lorsqu'on a ce genre de symptômes, on appelle son médecin et on lui explique ce qui se passe et on voit s'il y a des symptômes associés, car il est rare qu'on ait juste la céphalée, le mal de tête, sauf dans un AVC particulier qui s'appelle l'hémorragie méningée, qui arrive chez le sujet jeune le plus souvent, ou parfois même âgé, et qui se caractérise par une céphalée extrêmement violente.
Bon, professeur Amarenko, on a une autre question, c'est Olga, elle a 46 ans, elle nous a laissé un message sur le 3921. Notre répondeur, elle dit que son époux a eu un AIT, accident ischémique transitoire, vous me direz peut-être en quelques mots ce que c'est, il y a 5 ans, probablement parce qu'il avait déjà de l'hypertension. Il va très bien aujourd'hui, précise-t-elle, il prend ses médicaments correctement pour la tension, mais il demande s'il a encore un risque d'AVC. C'est l'occasion de dire ce que c'est l'AIT surtout.
Alors, l'accident ischémique transitoire, c'est un AVC.
Un mini AVC.
Un mini AVC qui ne dure pas, ça dure quelques secondes, quelques minutes, voire une heure en général, pas plus.
Symptômes disparaissent.
Et les symptômes disparaissent totalement. Mais c'est la meilleure opportunité de découvrir la cause.
Vous dites souvent que c'est la fumée du volcan, non, c'est ça?
Exactement, ouais. C'est comme la fumée du volcan qui va exploser, c'est la meilleure opportunité de trouver la cause, de la traiter et ainsi d'éviter l'AVC.
C'est ce qu'il fait, là, il prend ses médicaments.
Après un AIT, le risque d'avoir un AVC est de 15% à 3 mois, 15 à 20% même. Donc, on peut diminuer là aussi de 80% le risque si on trouve la cause, qu'on la traite, qu'on l'élimine. Mais il faut la trouver, ça peut être une arythmie, ça peut être un rétrécissement d'une artère que l'on traite, etc. Donc ça, c'est très important, l'accident ischémique transitoire. Voilà. Après, pour répondre à cette question, c'est difficile parce qu'il faut connaître la cause de l'accident transitoire. Et ensuite, suivant la cause, le risque peut être différent. Si la cause n'a pas été trouvée, le risque est très faible de refaire un accident. S'il y a une cause cardiaque ou artérielle, à ce moment-là, il faut qu'elle soit traitée par les médicaments appropriés. Mais ça, je pense qu'il a des médecins qui le prennent en charge.
Alors, on en parlait pendant la publicité, hein, ça n'est pas une question d'auditeur, mais il est tout à fait déconseillé de fumer après avoir fait du sport. C'est dangereux, non, pour les risques d'AVC, justement.
Après avoir fait du sport.
Ouais,
il est déconseillé de fumer après toute activité.
Tout court.
Pendant toute activité. Non, le tabac n'est pas une bonne chose pour les artères. Ça agit un peu comme de la rouille à l'intérieur des artères, si vous voulez. Et les plaques d'athérosclérose, les plaques de graisse qu'on a à l'intérieur des artères, parfois, peuvent s'ulcérer. À ce moment-là, il y a un caillot qui se met dessus. Ah, oui. Et ce caillot peut occluer l'artère ou bien partir dans le cerveau. C'est le problème du tabac.
Une petite dernière pour la route, c'est Michel sur Twitter qui nous demande s'il est vraiment possible, et je suis sûre que ça va nous permettre de conclure vraiment en beauté, d'avoir un AVC, de s'en sortir complètement indemne. Est-ce que c'est possible, professeur?
Bien entendu, 60% des AVC récupèrent en totalité ou quasi-totalité. Environ 20% ont des séquelles, moyennes ou modérées, et 10% des séquelles sévères. Mais 60% des gens récupèrent, et voilà, c'est quand même un message d'espoir pour tout le monde.
Merci beaucoup, professeur Amarenko, et on gardera surtout ce chiffre. Hein, 80% des AVC sont évitables. Merci beaucoup pour tous vos précieux conseils.
Oui, tout à fait. À présent, Mélanie, il est l'heure, hein, puisqu'il est midi 20, c'est le moment de notre chronique. Vite fait, très bien fait avec vous, Sylvie Chocron, bonjour. Alors, on va parler des sens et particulièrement de l'odorat aujourd'hui. On pense toujours qu'on est très sensible à ce que l'on voit ou alors à ce que l'on touche, mais est-ce que notre olfaction est également très développée ?
Bonjour à toutes les deux. Alors effectivement, on est très influencé par notre vision, notre audition, mais on a aussi hérité d'un odorat dont on n'a pas forcément conscience. Alors évidemment, les animaux, eux, ils peuvent se repérer aux odeurs. Nous, on ne se sert pas beaucoup des odeurs pour se repérer dans l'espace, mais néanmoins, on sait bien que l'olfaction, c'est un sens très important, et en particulier pour notre mémoire, par exemple. Donc on sait qu'à notre insu, on va souvent mémoriser les odeurs associées aux souvenirs.
Pourquoi justement est-ce que les odeurs sont tellement, tellement liées à nos émotions et à nos souvenirs? Est-ce qu'on a une explication?
La première explication, c'est que la région qui gère l'olfaction, les odeurs dans le cerveau, elle est toute proche de la région du circuit qui gère les émotions et qui gère la mémoire. Et c'est pour ça que si vous retournez par exemple dans l'école de votre enfance, rien que l'odeur de la craie tableau mouillé qu'on vient d'essuyer fait ressurgir plein de souvenirs, parce que qu'on le veuille ou non, quand on encode un souvenir, il semblerait qu'on encode automatiquement l'odeur qui va avec. Et du coup, quand on va sentir l'odeur, qu'on le veuille ou non, le souvenir va ressurgir.
Mais c'est génial. Mais que se passe-t-il précisément dans notre cerveau quand on sent une odeur? On se construit en fait une mémoire d'odeur, c'est ça?
Exactement. Donc on se construit, en fait, notre cerveau finalement se construit un répertoire d'odeurs. Et donc, au final, à chaque fois qu'il y a une nouvelle odeur qui se distingue de ce répertoire, il va la détecter, il va la traiter de manière complètement automatique à notre insu. Et donc, on dit qu'il y a des gens qui ont du nez, qui ont du flair, qui ont le nez creux. Il y a plein d'expressions qui renvoient au fait d'avoir de l'intuition. Il se pourrait très bien que ce ne soit pas de l'intuition, mais que ce soit véritablement des odeurs qu'on perçoive à notre insu et qui vont modifier nos comportements, nous faire fuir, nous attirer complètement de manière automatique. Mmh.
Est-ce que les odeurs sont perçues consciemment? On n'a pas toujours l'impression de traiter volontairement les odeurs,
ça,
Sylvie.
C'est sûr. Hein.
Alors, effectivement, en fait, elles sont très probablement perçues vraiment à notre insu, de manière totalement automatique, qu'on le veuille ou non, et utilisées à notre insu. C'est-à-dire que, voilà, on n'en a pas conscience, mais certaines odeurs vont modifier nos comportements ou vont faire ressurgir des souvenirs, même si on ne le veut pas. Tout est inconscient.
C'est incroyable. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on peut parfois percevoir une odeur, mais carrément qui peut nous faire peur ou nous faire fuir jusque-là ?
Alors, c'est exactement ça. Donc, en fait, il y a des chercheurs qui ont présenté des vidéos plus ou moins effrayantes à des spectateurs. Et pendant qu'ils regardaient ces vidéos qui faisaient plus ou moins peur, ils ont prélevé leur sueur.
Ah oui.
Et ils leur ont aussi demandé quel était le degré de leur peur. Et en fait, ils se sont rendus compte que non seulement plus on a peur, plus on sécrète ces odeurs-là, mais ces odeurs, leurs composés vraiment chimiques volatiles, et d'autant plus marqués qu'on a eu peur. Donc, il y a vraiment...
Je connais pas mal de gens qui ont très peur, hein, régulièrement, je crois.
Il y a vraiment une odeur de la peur qui est sécrétée à notre insu et qui est perçue à notre insu, ce qui veut dire que si on la perçoit, on va avoir tendance à fuir. Donc, on a raison de dire qu'il y a des situations qui sentent mauvais. Ouais. Réellement, il faut prendre ses jambes à son cou et s'en aller.
Il y a une odeur de la peur, ça, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a une odeur du bonheur aussi, peut-être?
Alors, ça aussi, c'est extrêmement étonnant. Donc, la même équipe de chercheurs s'est dit, si ça existe pour la peur, ça existe aussi peut-être pour la joie et le bonheur. Donc, ils ont pris des sujets qui étaient en situation vraiment de plaisir. Ils ont prélevé ces sécrétions. Ils les ont fait sentir à des sujets complètement naïfs. Et là, ils ont observé des manifestations vraiment de joie, de bonheur. Alors, à quand un parfum du bonheur? On ne sait pas. Mais il se pourrait très bien que là aussi, on soit attiré à notre insu par des sécrétions cutanées, vraiment...
De gens heureux.
De transpiration de gens heureux.
Ah bah oui, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec
ensemble,
Mélanie.
Hein, Julia.
Alors, est-ce qu'il y a certaines odeurs dans l'environnement qui peuvent aussi nous influencer? Je crois que la lavande peut influencer.
Et exactement. Quand on pense à la lavande, on pense aux armoires de nos grands-mères, à ces odeurs de notre enfance. Il se pourrait que la lavande ait une composition chimique qui ait le pouvoir de nous rassurer et d'inhiber donc dans notre cerveau vraiment les régions qui vont déclencher la peur. Et donc, là encore, il y a eu des expériences extrêmement sérieuses. On a demandé à des participantes de jouer. Et pendant qu'elles jouaient, on leur a vaporisé soit de la lavande, soit du clou de girofle, soit rien du tout. Et on a observé leur comportement. Et pendant qu'il y avait donc une ambiance de lavande, les participants étaient plus généreux, plus confiants, etc. Et ce n'est pas juste une anecdote, parce qu'il y a une autre expérience où des chercheurs ont montré des photos d'inconnus à des sujets. Et là, on leur a vaporisé pareil de la lavande ou autre chose. Et pendant qu'ils sentaient de la lavande, ils se sentaient plus en confiance avec ces personnes qu'ils ne connaissaient pas. Donc on leur demandait d'estimer s'il leur ferait confiance ou pas. Ouais. Il leur faisait plus confiance s'il y avait de la lavande.
Ah, mais c'est génial. Moi, je crois qu'il faudrait mettre ça quand on va se demander une augmentation. On va un petit spray de la lavande.
Mais là, ça sent la figue. Alors, je ne sais pas ce que ça fait.
Il faut qu'on aille regarder dans la littérature.
Regarder,
je promets une réponse pour la semaine prochaine.
S'il vous plaît, Sylvie. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait du bien à notre cerveau parce que moi, j'ai passé une excellente émission
moi
en
aussi,
votre compagnie, je voulais vous
aussi,
le dire. Merci beaucoup, Sylvie Chocron, pour ce décryptage. Alors, je rappelle qu'on vous retrouve ici tous les mercredis. Et voilà, bien fait pour vous. Touche à sa fin, on vous retrouve bien sûr demain. Et Mélanie, demain, on va démarrer avec une nouvelle grande question.
Et oui, demain, Julia, on va parler d'amour. Mais attention, cet amour qui fait parfois mal, qui nous grignote de l'intérieur. Et on se posera cette question. Et si celle ou celui que j'aime était toxique, on apprendra à identifier les signes qui doivent donner l'alerte. Et surtout, que faut-il faire une fois qu'on a mis le doigt sur ce très gros problème? On verra ça.
Et puis, il y aura encore de nouveaux sujets tendances, de la santé, du bien-être. Alors d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.